Chapitre 3. Au moment même où on parlait de revenants, Miko venait d'apparaître sur le seuil de la porte. Il était toujours en bras de chemise. Il entra doucement, presque craintif et la face souriante en disant « Alors, c'est donc ainsi qu'on reçoit un camarade qui a failli rendre sa petite âme aujourd'hui ?» Avant que l'effroi fût calmé, Miko était arrivé devant Soufflard et lui tendit la main. « Oh, j'ai été vaincu, donc j'avais tort, lui dit-il. Je n'ai plus de rancune et j'abandonne franchement toutes mes prétentions à l'amour d'Aliette. Veux-tu tout oublier ?»« Oui, de grand cœur, s'écria Soufflard, serrant franchement la main qui lui était offerte. « Oh, tu as une rude poigne, camarade. Si j'ai pas été complètement étranglé par toi, c'est que le diable s'en est mêlé. » Un prompt signe d'Aliette arrêta Soufflard, qui ouvrait la bouche pour dire à Mirko combien il était innocent de lui avoir tordu le cou. Et pendant que Miko allait s'asseoir à la table, Aliette souffla vite à son amant. « Méfie-toi, je connais le Miko, sa réconciliation sonne creux. » Les bandits avaient fait place à l'arrivant. « Dites donc, papa Miko, l'envie vous est donc venue de rentrer votre langue ? Vous la tiriez d'une jolie longueur ce matin dans le caveau, étendu sur le dos. Faut pas garder cette habitude-là, ça attire les mouches, je vous en préviens. Oui, je suis revenu à moi, grâce à l'heureuse idée de celui qui m'a retiré ma cravate. » Le meunier reprit d'un air modeste. Hein, « C'est moi, vieux. Merci, fanandel. » Et personne ne s'est présenté après notre départ ? Demanda Aliette d'un ton méfiant. Personne, fit Miko avec aplomb. En revenant à moi, dans la maison déserte, j'ai eu l'idée que vous deviez être à la pomme d'amour de la barrière du Maine ou au franc roulier. J'ai commencé par le mauvais bout, puis je suis venu ici, de là, mon retard. Aliette attachait sur Miko un regard perçant. Son ancien amoureux ne broncha pas sous cet examen. Et malgré l'émotion énorme qu'il ressentait en faisant cette question, il demanda de l'air le plus dégagé. « Oh, dites ça, dites-moi. Donc, quel est le farceur qui m'a pris ma redingote ?»« C'est moi, » fit Soufflard. « Toi ?» s'écria Miko en lançant sur Soufflard un regard mêlé de haine et de stupeur qu'il éteignit aussitôt. Mais si court qu'il eût été, ce regard avait été surpris par Aliette. Miko avait retrouvé son calme affecté. « Et qu'en as-tu fait ? Oh, venons ici, je n'avais pas d'argent et je l'ai engagé au bon de piété. » Miko pâlit et ses lèvres, qu'il mordit avec rage pour étouffer un cri, se teignirent de sang. Comme elle l'avait dit à Soufflard, Aliette connaissait trop bien Miko pour n'avoir pas deviné que le bandit devait couver quelques projets de vengeance. Mais par quel moyen voulait-il y parvenir ? Était-ce par le meurtre de son rival ou par une dénonciation à la police ? Bien que les explications données par Miro lui parussent plausibles, la belle blonde sentait instinctivement un piège. La prudence lui soufflait qu'elle devait surveiller Miko et, devant lui, éviter toute confidence de nature à être exploitée par un dénonciateur. Malheureusement, pour les projets d'Aliette, il lui était impossible, en présence de Miko, de communiquer ses soupçons à ses complices. Et ce qu'elle avait prévu arriva. Les bandits, plus confiants qu'elle, allèrent d'eux-mêmes au-devant du projet inconnu de l'ex-amant de la blonde. « Parbleu !» cria le vieil, « tu resteras pas longtemps en bras de chemise. »« Comment ça ?» fit Miko. « Ben avant peu, tu pourras facilement remplacer ta redingote, car il paraît que nous allons nager dans l'or grâce à la volard. »«
Vraiment ?»«
Oui, » ajouta le meunier, « la vieille a déniché un coup superbe. » Il n'y a qu'à se baisser et apprendre. Aliette aurait voulu arrêter la confidence, mais il était trop tard. « Pas vrai, la volard ! » cria le meunier. « Tu nous as levé un grachissage qui doit nous enrichir tous. Oh, tous, non, répliqua la revendeuse, mais les trois ou quatre beaux garçons qui mettront la main à la pâte. C'est bon, je vous ai prévenu d'une chose. Quoi donc ? Ah, qu'il ne fallait pas avoir un poil dans la main. Il y a donc du tirage, fit la vieille, mieux que ça. Oh oui, il y a 18 chances sur 20 qu'il faudra répondre du résiné. Seulement après, on sera bien payé de sa peine. Soufflard avait écouté sans mot dire les premières phrases, mais en entendant la dernière, il se tourna vivement vers la volard. On ne saurait imaginer avec quelle tranquille insouciance fut échangé un horrible dialogue en argot qui voulait dire « Il y a gros à prendre, un butin de roi, et le sang est nécessaire, ah oui, un meurtre. Quelle victime ? Un homme ? Non. Alors une femme, peut-être deux femmes. Mais j'en suis. » Aliette n'avait pas quitté Miko des yeux pendant les paroles de son amant. Quand ce dernier réclama le droit de participer au meurtre, elle vit un sourire de joie passer sur les lèvres de Miko. Il veut perdre Soufflard, se dit-elle. Voir Soufflard chargé d'un meurtre la fait sourire. Donc, il a intérêt à le trouver compromis et il se vengera par une dénonciation. C'est un bouchard à tuer. Aliette était une rude femme. Elle venait de condamner Miko à mort et Miko était bien perdu. Mais lui aussi connaissait son Aliette. Il comprenait que sa défiance devait être éveillée et sans lever la tête, il sentait son regard peser sur lui. Il faut croire que les soupçons de la blonde étaient injustes. Car à peine Soufflard avait-il annoncé qu'il voulait prendre part à l'expédition, que Miko se tourna vers la volard en disant « Eh, j'en suis aussi !»« Toi ?» s'écria Aliette, déroutée dans son idée que Miko avait intérêt à voir Soufflard se compromettre seul. Miko avait pris l'air étonné. « Et pourquoi pas, ma belle ?»« Bon, je ne te croyais pas si décidée. » « Nécessité fait loi, reprit Miko. Je peux pas toujours rester en bras de chemise. Mais tu dois avoir un autre vêtement chez toi, demanda le meunier. Non, pas l'ombre d'un. Allons donc, blagueur, cria le vieil. Si tu n'as pas d'autre vêtement, tu as le moyen, même sans voler, de t'en procurer un autre, car tu dois posséder un rude sac. Miko eut un tressaillement. Moi ? Fit-il en prenant une figure étonnée. « Oui, oui, toi, on n'a donc pas l'air de revenir de Pontoise. On ne te voit pas dépenser un sou, et pourtant tu as touché de bonne part dans tous nos coups. » Miko avait pâli, mais il gardait sa figure surprise. « Mais où diable avez-vous pêché que je devais avoir un sac ?»« Oh, sois, tu n'es pas un confesse, garde ton secret, » reprit le sage. « Dis donc, pané !» cria le moucheron. « Quoi ? Me donnes-tu ton magot, si je mets la main dessus ? Oh, de grand cœur, galopin ! Alors, garde ton saint frusquin !» Miko fit semblant de partager l'éclat de rire général. « Ainsi donc, Miko, tu es bien décidé !» demanda Soufflard. « Parfaitement, j'ai besoin d'argent, ne fût-ce que pour retirer ma redingote du monde-piété. » Après avoir dit ces mots, il ajouta d'un ton tranquille. « À propos, rends-moi donc la reconnaissance. Je l'ai remise à Aliette. » Miko tourna les yeux vers la blonde. « Donne, ma fille, lui dit-il. » Aliette était prudente. Un pressentiment l'avertit qu'elle ne devait pas se dessaisir du papier. « Oh, je ne l'ai plus, répondit-elle. » Miko sembla éprouver une secousse nerveuse. « Et qu'en as-tu fait ? Madame, je te croyais mort, et comme les papiers sont bavards, j'ai brûlé celui-là. Il y a gros à parier que le bouchon aurait fortement crié si son oreille avait été à la place du bouchon que Miko tenait entre ses doigts quand Aliette lui fit cette réponse. Le liège s'aplatit subitement sous la pression nerveuse que lui fit subir le gredin, dont la figure pourtant resta impassible. Cependant, Soufflard s'était rapproché de la volard qui dégustait son verre d'eau sucrée. La bonne dame avait les digestions difficiles. « Voyons la vieille, lui dit-il. Miko et moi, nous nous chargeons de l'affaire. Raconte-moi de quoi il retourne. » La volard secoua la tête. « Oh, vous n'êtes pas assez de deux. » « Combien t'en faut-il ? » « Au moins trois. » Soufflard fit un geste pour réclamer le silence de la bande, en ce moment un peu bruyante. « Il nous faut un troisième, » prononça-t-il d'un ton bref. C'étaient tous de hardis compagnons, mais l'homme n'est pas parfait. La pensée du meurtre à commettre les faisait reculer. Aucun ne se souciait de franchir la distance du bagne à l'échafaud. Le silence répondit donc à la sinistre demande de Soufflard. Puis un petit ricanement résonna. « Ah, Soufflard, c'est pas bien d'avoir pas pensé tout de suite à son camarade le sage !» lui criait ce dernier. Le trio était trouvé. « Cela te suffit, la mère ?» demanda Soufflard. « Bon, la chose est possible, faisable avec vous trois, moi et mon petit Alfred. »« Tiens, je suis donc de la fête ?» dit le gamin surpris. « Oui, mon bijou. Alors on me paiera le cirque. J'adore voir une belle femme debout sur un cheval qui saute dans des côtelettes en papillote. » « C'est convenu, mon doux trésor, » dit la tendre maman. Et après avoir caressé l'espèce d'étrille qui servait de chevelure à son bien-aimé rejeton, la volard ajouta « Mais maintenant, je vais vous conter la petite chose en douceur. » Les trois hommes tendirent l'oreille à la confidente de la volard. La vieille baissa la voix et commença. Le magot a déniché rue du Temple, 91.
Bigot, c'est une rue bien fréquentée, fit le sage.
Oh, ben, si tu commences à cracher déjà sur l'ouvrage, t'es pas au bout de ta peine, toi, dit la volard. Car non seulement la rue est fréquentée, mais il faut faire l'ouvrage en plein jour.
Pourquoi pas le soir?
Ah, parce que le soir, il vous faudrait refroidir trois personnes. Au lieu que dans le jour, oh, une, peut-être deux, ça dépend de votre chance. Mais dans tous les cas, comptez toujours sur une.
Ne vous abusez pas aux détails, dit Soufflard impatient. Nous verrons quand nous y serons. Continue, la vieille.
Une maison à aller, ajouta la volard.
Bon, dit le sage.
Il y a des portiers. Aïe, moins bon. C'est au troisième étage et la porte est à trois serrures.
Trois serrures ? S'écria Miko. Il y a donc un bien joli magot derrière.
Parbleu, fit le moucheron. Crois-tu pas qu'on met trois serrures pour garder enfermé son dernier rhume de cerveau ?
Après ? Demanda Soufflard.
Ben vous serez là chez de gros marchands du temple qui passent pour riches. Le mari tient la boutique au temple et dans la maison, il a son magasin qui est gardé par la femme. Quand les clients ne trouvent pas ce qu'il leur faut à la boutique, le mari les envoie au magasin de la femme. C'est donc un va-et-vient dans l'escalier qui fait qu'on n'a pas trop à redouter les portiers.
Donc la femme est seule.
C'est selon. Le ménage a une fillette de 15 ans qui se tient tantôt avec le père, tantôt avec la mère. Je vous le dis, c'est votre chance qui décidera si vous aurez une ou deux femmes à refroidir.
Et la mère ne sort jamais?
Jamais oh, un vrai cheval à l'ouvrage. C'est la petite fille qui fait les commissions du ménage.
Mais le dimanche, cette famille-là doit aller se promener, demanda le sage.
Mais alors le dimanche, il n'y a plus le mouvement des acheteurs dans l'escalier. La maison est déserte et les portiers interrogent les visiteurs qui arrivent. De vrais cerbères qui vous rebouchent des pieds à la tête. Il y aurait moins de danger à être découvert en surinant la mère et la fille.
Tant pis, dit le sage, j'aurais bien aimé travailler le dimanche. Nous aurions pu faire moins de gâchis. Alors, pendant qu'ils se seraient promenés en famille, nous aurions trouvé un moyen d'écarter les concierges, et bien gentiment, avec des fausses clés.
À ces mots de fausses clés, le moucheron se mit à se tordre de rire.
Qu'as-tu donc, crapaud ? Demanda Soufflard.
L'enfant riait tant qu'il en pouvait parler. La volard prit un air pincé.
Ah oui, je vous conseille de rire, monsieur Alfred, dit-elle. Vous avez vraiment de quoi être fier. Croyez-vous que ce polisson rit d'avoir osé porter la main sur sa pauvre mère ?
Non, non, pas la main, mais le poing, dit le gamin, entre deux éclats de rire.
Et pourquoi ?
Ben pour avoir les empreintes de ses serrures, dit le moucheron en continuant à se tordre.
Comment ? S'écria Soufflard. Tu as les fausses clés, la voilà ?
Oui, grâce à moi, dit l'enfant devenu un peu plus calme.
Conte-nous ça, fit Miko.
Ah non, pas moi, je suis trop modeste. Demande-le à la mère.
La colère de la volare était feinte. Au fond, elle était fière de son fils et ne put résister au désir de faire l'éloge de sa progéniture.
Figurez-vous donc que je rôdais avec ce garnement dans le temple, me demandant pour la 20e fois comment j'entrerais dans la maison pour prendre les empreintes des serrures.
Je ne l'ai pas être vu dans le casino, car j'étais connu des portiers et du ménage de marchands.
Ah, tu as donc habité la maison ? Non, mais j'y ai été la porteuse de pain pendant 12 jours, le temps d'étudier le coup.
À cette époque, la fillette n'était pas avec ses parents, elle se trouvait à la campagne, en pension, je sais pas où. Bref, dans la maison, ça ne me connaissait pas. Donc, j'avais dans ma poche ma cire bien molle et bien préparée, et je cherchais toujours mon moyen de me glisser dans la maison. Comme là, mon gamin qui me dit «
Mais si au lieu de l'empreinte des serrures, t'avais celle des clés, est-ce la même chose ?»«
Ben, c'est 100 fois meilleur. »«
Bon, ben, tu prétends que la fille ne te connaît pas ?»
« Oh non, pas plus que le grand Turc.
Alors, tu vas voir. »
Il faut vous dire que du coin où nous étions, nous apercevions de loin la boutique du temple où se tenaient le père et la fille. Et là, voilà mon galop, qui court à un commissionnaire du coin. Allez donc au temple qui lui dit « Vous chercherez Monsieur Renaud dans la travée des literies et vous l'avertirez qu'on le demande chez le concierge de la rue Mellet, 42. » pour lui vendre la literie d'un locataire qui vient de mourir. Accompagnez-le pour l'aider à porter les matelas au retour. »
Bête comme une andouille, l'Auvergnat part. De loin, nous le voyons aborder le marchand, qui bientôt s'élevait avec lui dans la direction de la rue Mellet, en laissant sa fille seule dans la boutique. Alors voilà mon bouchon qui me recommence son interrogatoire.
« Tu dis que la fille va continuellement de son père à sa mère, c'est-à-dire de la boutique au magasin ?»«
Oui, elle est toujours en chemin. »«
Ben donc, puisqu'en ce moment sa mère, qui est malade au lit, ne peut se lever pour lui ouvrir, elle doit avoir sur elle les clés de l'appartement ?»«
C'est probable. Bon, allez, donne la cire. »«
La voici.
Maintenant, baisse-toi. »
Pourquoi faire ?
Mais baisse-toi donc !
Alors donc je me baisse et voilà mon galop, qui me fourre mon morceau de cire
sous ma robe, dans le dos, entre les deux épaules. Moi, je suis chatouilleuse, en le sentant me farfouiller dans le dos, je me redresse. Non, non, qui me dit, baisse-toi encore. Bon, là, est-ce bien? Non, encore un peu. Comme cela, est-ce assez? Alors, au lieu de me répondre, mon gamin recule d'un pas pour mieux prendre son élan. Il m'administre un violent coup de poing sur le nez. À mesure que la volard avançait dans son récit, le moucheron avait repris ses éclats de rire. Les autres l'imitèrent en entendant parler du coup de poing envoyé par le charmant Alfred sur le nez de sa mère. Mais la volard continua son récit. Immédiatement, le sang me part à flot. Oh, vous devinez mon étonnement. J'en étais pas encore revenu, que l'enfant m'entraînait déjà du côté de la boutique. En me voyant si couverte de sang, aussitôt la jeune fille s'intéresse à moi. Ma pauvre maman, criait mon morveux, voilà son hémorragie qui la reprend. Et en disant cela, il se fouillait en disant « Oh, si j'avais des clés, on dit qu'en les fourrant dans le dos, l'écoulement s'arrête aussitôt. » En l'entendant, la fillette ne fait ni une ni deux. Elle tire bêtement son trousseau de clés de sa poche et les passe à Alfred en disant « Tenez, essayez avec celle-ci. » Et voilà donc que l'enfant m'introduit délicatement les clés dans le dos en appuyant bien le bout du paneton de chacune sur la cire que j'avais entre les épaules. Oh, Junior, si c'est par l'effet des clés, mais mon saignement, c'est ça. La fille reprit son trousseau et après l'avoir bien remercié, nous partîmes en emportant les empreintes. En terminant son récit, la volard prit un ignoble cabas qui ne la quittait pas. Et y plongeant la main, elle en sortit trois fausses clés qu'elle jeta sur la table. « À vous les oiseaux, » dit-elle, « maintenant, faites-les chanter. » Soufflard les saisit. « Tu es sûr qu'elles ouvrent la porte de la femme ?» demanda-t-il. « Vas-y voir, mon garçon. » Soufflard mit les clés dans sa poche. Ben voilà déjà une partie des ustensiles si nécessaires, dit-il. Et son regard, parcourant la table, s'arrêta sur un couteau large de lame à dos épais et bien solidement emmanché qui se trouvait près de lui. Le sage avait tranquillement écouté le récit de sa sœur. Quand il vit Soufflard empocher les clés, il demanda « Pour quand ?» « Mettons cela pour après-demain, » dit Miko avec un léger tremblement dans la voix. « Non, demain, » dit Soufflard. « Cette affaire-là est comme l'omelette soufflée, elle n'attend pas. »« Convenu, » dit le sage. En voyant le conciliabule des complices se prolonger, les autres bandits s'étaient éloignés, les uns pour gagner leur taudis, les autres pour réclamer l'hospitalité dans un grenier du franc roulier. Aliette avait tout écouté, muette et les yeux sans cesse fixés sur Miko. À ce moment, une horloge voisine sonna minuit. Les trois hommes se levèrent. « Ainsi donc à demain, » dit Soufflard. « Bien, » reprit le sage, « et le rendez-vous ?»« Ben, midi, au petit restaurant de la rue Saint-André-des-Arts. On y déjeunera, » répondit Soufflard. En sortant, Aliette souffla le sage. « Ne quitte pas, Miko, je m'en méfie. »« Bon, très bien. » Arrivés à la rue, Aliette et Soufflard tournèrent à droite pour gagner la rue des Noyers, où le couple avait un de ses trois domiciles. Miko et le sage prirent à droite. Au premier coin de rue, Miko s'arrêta et tendit la main à le sage. « Bonsoir et à demain, » dit-il. « Mais pourquoi demain ?» demanda le sage. « Quand on est si bien ensemble, on aurait tort de se quitter. » Et il passa son bras sous celui de Miko. Ce dernier était trop faible pour essayer de lutter avec le sage.
y comprit qu'il était pris. « Soit, dit-il, ne nous quittons pas, viens coucher chez moi. » Si ce pauvre Miko avait une arrière-pensée en attirant son complice chez lui, il lui fallut y renoncer, car le sage lui répliqua « Non, je demeure à 100 pas d'ici, nous y serons vite arrivés. » Et serrant plus fort le bras de Miko, il l'entraîna. À ce moment même, le fourgard Rigobin, en desservant la table où la bande avait soupé, constatait la disparition de 2 couteaux. Il eut un sourire de satisfaction. « Allons, dit-il, je serai payé. Je vois que quelques-uns de ces messieurs songent sérieusement à travailler. » Nous avons laissé Aliette et son amant regagnant après minuit leur domicile de la rue des Noyers. La route se vit en silence, car chacun d'eux était sous l'empire d'une préoccupation sinistre. Soufflard songeait au vol du lendemain et au meurtre que la volard lui avait dit être indispensable. De son côté, Aliette sentait qu'une catastrophe planait sur eux. Elle avait la persuasion intime que la longue impunité dont on avait un jour allait bientôt cesser. Malgré elle, le souvenir de l'agent l'écureuil lui revenait. Son audace, son courage, son adresse l'inquiétaient. Bref, disons-le, Aliette avait peur. En 20 minutes, le couple fut rendu dans le petit logement qu'il occupait. À peine entré, Soufflard sortit de sa poche de côté le long et massif couteau volé chez Rigobin, et le posa sur la cheminée. Ce couteau avait une terrible éloquence. Il disait que le lendemain, à la même heure, une mère et peut-être sa fille, qui s'était endormie ce soir heureuse du présent et confiante dans l'avenir, ne seraient plus que 2 cadavres sanglants. Certes, la sensibilité d'Aliette était depuis longtemps usée par les nombreuses et sinistres scènes dont elle avait été témoin. Mais ce soir-là, par suite de la disposition d'esprit qui l'agitait, la vue de cette lame, qui dans quelques heures allait être teinte de sang, lui fit éprouver un frisson. Elle posa la main sur le couteau en disant « Victor, tu n'iras pas au rendez-vous. Et pourquoi ?»« Non, je ne le veux pas, » répondit-elle d'un ton résolu. « Mais tu es folle ?»« Non, mais je ne sais quoi, me dit que nous sommes au bout du rouleau. La police nous entoure, je le sens. Ce soir, j'aurais dû buter Miko, qui, j'en ai la certitude, sera funeste. Je ne l'ai pas fait, mais c'est une faute que nous paierons cher avant peu. »« Mais penses-tu, Miko, un ancien compagnon de bagne ?» Le meilleur cheval peut devenir fourbu. Oui, Miko est jaloux, il me hait, c'est certain, mais sa haine ne va pas jusqu'à me dénoncer. Que peut-il y gagner? Mes vols sont les siens, il se perdrait en m'entraînant. Tant qu'il ne s'agit que de vol, on revient ou on s'évade du bagne, mais il te pousse sur la route de la guillotine. « Basca, il y vient avec moi, puisque demain il nous accompagne. »« Au dernier moment, il vous échappera. »« Bon, je le tue comme un chien si je le vois broncher, » dit Soufflard d'une voix sourde. Aliette secoua la tête. « Non, Victor, tu ne le tueras pas, car je te l'ai dit, je ne veux pas que tu ailles à ce rendez-vous. »«
J'irai, »
dit Soufflard, résistant pour la première fois à la belle blonde. L'œil d'Aliette s'enflamma. « Je te le défends !»«
J'irai !» répéta de nouveau Soufflard.
« Mais je veux que tu évites, Miko !» En entendant cette phrase, la figure de Soufflard prit tout à coup une expression d'étonnement. Il paraissait chercher à comprendre une pensée qui venait de lui arriver subitement à l'esprit. Puis aussitôt ses traits se contractèrent, la rage alluma ses yeux, et blême d'une émotion qui lui faisait claquer les dents, il vint se poser devant Aliette.
« Oh, ça, ma fille !» dit-il d'une voix rauque. « Il fallait m'annoncer tout de suite que tu me prends pour un imbécile !»
Aliette ne broncha pas devant cette figure menaçante et terrible.
« Mais quelle bouche te pique ?» lui demanda-t-elle de sa voix calme et moqueuse.
Aliette aimait-elle Soufflard ? Nous ne saurions l'affirmer. Sauf de rares exceptions, les voleurs sont d'une nature incomplète. Sans énergie, superstitieux et poltrons, leur tempérament ne comporte que la patience et la ruse. Ils s'effacent devant tout ce qui exige l'énergie et le courage. Quand le sage disait de Soufflard « C'est un homme !» il faisait l'éloge des qualités, rares chez les voleurs, que Soufflard possédait. Dans la série des scélérats qu'Aliette comptait pour complice, celui-ci était le seul chez lequel la blonde avait trouvé une nature mieux trempée, et elle s'était attachée comme le dompteur s'intéresse à la bête féroce qu'il veut asservir. Mais si Soufflard avait l'énergie de la bête féroce, il en avait l'intelligence étroite. En voyant la persistance mise par Aliette à lui faire fuir Miko, au lieu de bien comprendre le vrai mobile qui guidait sa maîtresse, le bandit idiot avait songé au passé et la jalousie venait de lui envahir le cerveau. Sa colère s'augmenta en voyant la tranquillité d'Aliette, qui, le sourire moqueur aux lèvres, lui répéta « Mais quelle bouche te pique ?»«
Oh, je comprends maintenant pourquoi tu veux me faire éviter Miko. »
Je te l'ai dit, c'est pour te détourner de la guillotine.
Allons donc, tu as peur que je crève à l'ancien amant, pour lequel tu te sens un petit goût de revenez-y.
Aliette haussa les épaules.
Mais qui m'empêchait de reprendre Miko pendant que tu étais à la force, dit-elle. T'as-je abandonné? Qui donc tous les jours t'envoyait 10 francs?
Parbleu, bon, tu avais peur de moi, ma sortie de prison.
Aliette approcha sa figure du visage furieux de Soufflard, et le regardant bien dans les yeux, elle lui dit d'un ton calme « Répète que j'ai peur de toi. » Soufflard avait trop longtemps subi l'empire d'Aliette pour s'affranchir tout à coup. Il n'osa répéter sa phrase, mais cette contrainte augmenta sa furie.
« Je te buterai, ton Michaud !» hurla-t-il, « Conduis-y, ma fille, ton Miko, auquel tu avais sans doute ordonné de me tuer dans la cave, car il n'est pas assez courageux pour avoir pris une telle résolution sans y être poussé. »
La fureur de Soufflard s'augmentait du silence d'Aliette, qui, le dos appuyé à la cheminée, le regardait sans répondre.
« Le tuerai, entends-tu, et toi après ?»
Et il revint se soumettre devant elle.
« Je ferai un chit, ton Miko chéri. T'as jamais cessé d'aimer et dont tu gardes bien soigneusement le portrait sans permettre jamais qu'on y touche. Oh, une vraie relique sacrée. »
La figure d'Aliette exprima la surprise.
« Quel portrait ? » demanda-t-elle.
« Oui, non, ce médaillon que tu portes à ton cou et que je vais briser. »
Et il étendit une main crispée par la rage. Mais il n'eut pas le temps d'agir. D'un bond de panthère, Aliette le fit rouler au bout de la chambre. Elle saisit le couteau sur la cheminée et, toute frémissante d'une émotion secrète, l'œil plein de menaces, le couteau au poing, elle fit face au chelapan qui, s'étant relevé, se tenait terrifié devant une pareille fureur.
« À bas les pattes et cuve ton vin, pochard ! » cria-t-elle d'une voix claire. Je te répète encore ma défense d'aller là-bas, et si demain je ne te trouve pas ici, tu connaîtras Aliette. Allez, adieu, je ne loge pas avec les chiens hargneux.
Avant que Soufflard fût revenu de son émoi, la porte se refermait sur ma belle blonde qui s'élança dans l'escalier. Arrivée dans la rue, Aliette prit sa course pour mettre l'espace entre elle et Soufflard dans le cas où ce dernier aurait l'idée de la poursuivre. Elle atteignit ainsi la Seine. Il pouvait être 1 heure du matin et un magnifique clair de lune éclairait le quai désert. Alors elle s'arrêta et, d'une main anxieuse, elle porta les doigts à son cou pour tâter, soigneusement caché sous sa robe, son précieux médaillon. Le cri qu'elle poussa aussitôt vibrait d'une épouvantable angoisse. Le médaillon n'était plus à sa place. Un instant, elle resta muette, stupéfiée, haletante. Puis tout à coup, cette femme, endurcie dans le mal et qui semblait insensible à tout, poussa un sanglot douloureux et fondit en larmes. Aliette était d'un moral trop bien trempé pour qu'une douleur, si énergique qu'elle fût, l'abattît longtemps. Le sang-froid lui revint et dans son esprit, elle repassa tous les événements du jour. Soufflard n'avait pas eu le temps de lui effleurer le cou et par conséquent d'arracher le bijou. Alors elle se rappela avoir, le matin, en précipitant le policier dans la cave, sentit le bouton de sa manchette s'accrocher à un obstacle que la violence de l'effort avait brisé. « Ah oui, se dit-elle, c'est là !» Et elle prit sa course vers le gros caillou. 20 minutes après, Aliette était devant la bicoque qui se dressait sombre et déserte. Aliette était surtout une cambrioleuse de flanc, c'est-à-dire de l'espèce des voleurs, qui, sans partie arrêtée, entrent au hasard dans une maison n'importe laquelle, et quelle que soit l'heure et le quartier, en un mot, des tenteurs de hasard. Il leur faut donc être toujours munis des ustensiles nécessaires. Aliette avait avec elle la trousse voulue. Elle en tira le crochet avec lequel elle ouvrit la porte de la maison. Elle y prit le briquet et la mèche, qui lui donnèrent la lumière nécessaire, et alors, courbée sur la dalle du couloir, presque à genoux, comme l'avait prévu l'écureuil, elle se mit à chercher. L'œil inquiet et humide de larmes, la face pâle et les lèvres tremblantes d'émotion, elle ne ressemblait plus à cette belle Aliette qui, une demi-heure auparavant, avait fait reculer Soufflard. Sa recherche fut vaine et elle se redressa, désolée et tremblante. Mais en se relevant, ses yeux s'arrêtèrent hagards de surprise sur la muraille. La lumière qu'elle tenait venait de lui éclairer les mots écrits par l'amoureux policier « Médaillon trouvé ».« Médaillon trouvé ?» répéta-t-elle plusieurs fois. Aliette n'avait plus rien à faire dans la masure. Elle tira la porte et, toute pensive, reprit le chemin du quai. Ces deux simples mots la faisaient réfléchir et la touchaient car elle comprenait la pensée délicate qui les avait fait écrire. Celui qui avait trouvé le médaillon avait deviné que c'était là un tendre souvenir dont la perte serait douloureuse. Il avait prévu qu'on s'en affligerait à coup sûr. Et pour elle seule, il avait écrit ces deux mots. Aliette chercha, parmi ses compagnons de la journée, celui qui pouvait être capable d'un pareil sentiment. Leur souvenir seul lui levait le cœur. Elle s'arrêta subitement. Un personnage surgissait dans sa mémoire. « Serait-ce le mouchard ?» se dit-elle. Il est donc revenu après notre départ. Une pensée parut adoucir ses traits contractés, et elle souffla tout bas. J'ai voulu tuer cet homme. 100 mètres plus loin, Aliette avait repris son sang-froid. Oh, je le retrouverai, se dit-elle. À ce moment, elle était arrivée à la hauteur de la rue Dauphine. Elle s'arrêta et songea.
Oui, je ne peux pas rejoindre mon ivrogne, il y a encore 1 heure de nuit. Où vais-je aller coucher? Elle pensa à Miko, qui habitait cette ruelle voisine, qu'on appelle la rue de Nevers. Le sage, sur mon avis, aura gardé Miko à vue et doit le tenir enfermé chez lui. Donc la chambre de Miko est déserte. Oh, je vais y aller attendre le jour. Aliette connaissait bien cette maison. C'était un immeuble sans portier dont chaque locataire avait la clé d'entrée. Avec son crochet, elle ouvrit la porte de Miko et pénétra dans la chambre. « Déserte, se dit-elle, oh, j'avais bien prévu. Ah, essayons un peu de dormir sur le lit. » Aliette s'étendit et chercha vainement le sommeil. La pensée du policier lui revenait à l'esprit. Tout à coup, elle dressa l'oreille. 3 petits coups avaient retenti à la porte. « Qui peut frapper ?» se dit-elle. Les 3 coups se répétèrent, faibles et espacés. « Ces coups sont trop prudents pour ne pas venir d'un ami, » pensa-t-elle. Et elle alla ouvrir. À la vue de celui qui avait frappé, Aliette étouffa un cri et recula de surprise au milieu de la chambre. Elle se trouvait en présence de l'écureuil. L'écureuil, de son côté, fit aussitôt un violent soubresaut en se trouvant tout à coup en présence de la belle blonde, dont le souvenir lui trottait depuis la veille dans la tête et le mordait un peu au cœur. Telles étaient la beauté d'Aliette et l'étrange magnétisme qu'elle exerçait, que le policier, bien qu'il connût à peu près ce qu'était cette femme, se sentit un moment interdit. Si court que put être leur embarras commun, il fut assez long pour permettre à Aliette, qui ne s'en était pas préoccupée la veille, de reconnaître que l'agent était un fort beau garçon, bien taillé, à l'œil vif et au visage franc et hardi. « J'ai failli tuer un bien beau gars, » se dit-elle. L'écureuil avait repris son aplomb et feignait la surprise. « Comment, vous ici, mademoiselle ? » s'écria-t-il. Vous que j'ai reconduite hier au Gros Caillou, devant la maison où me disiez-vous se trouvait votre demeure ? Aliette était certaine que l'agent disait faux et qu'il ne la prenait plus pour cette jeune fille timorée qui l'avait accompagnée la veille. Sans répondre à son exclamation, elle marcha vers lui, qui se tenait toujours sur le seuil de la porte. « Mais entrez donc, monsieur, lui dit-elle. Les voisins peuvent s'étonner de notre conversation sur le carré à cette heure si matinale. » Il était 3 heures du matin. En juin, à ce moment, le jour commence à poindre. L'écureuil entra, salua Aliette qui s'effaçait à son passage pour fermer la porte derrière lui, et s'avança dans la chambre jusqu'à une table sur laquelle Aliette avait posé le couteau pris à Soufflard. « Mazette, dit-il, vous avez là, mademoiselle, un solide couteau, mais rangez-le donc avec sa douzaine. » Et avec 2 doigts, le prenant par l'extrême pointe de la lame, il le tendit par le manche à Aliette. Elle n'avait qu'à saisir ce manche et à pousser la lame pour la plonger dans la poitrine de l'agent qui, le bras ployé, tenait la pointe à 6 pouces de son corps. Elle porta la main sur le manche. Les doigts du policier ne sauraient dire pas pour résister. Elle serra vivement le manche. Les doigts restèrent souples. Alors entre ces 2 êtres, tenant le couteau, s'échangea un de ces regards profonds qui suffisent pour se juger. Dans les yeux du policier souriant, Aliette fut le courage, mais pas celui de Soufflard qui s'excite par l'affluence du sang au cerveau, mais le courage froid, calme, réfléchi, le vrai courage. Les doigts d'Aliette désespérés desserrèrent le manche du couteau, et émue malgré elle, renonçant à la tentation, elle dit vivement « Reposez ce couteau à sa place ».
Le policier obéit sans ajouter un mot.
« Maintenant, reprit Aliette, voulez-vous m'expliquer votre présence ici à pareille heure ?»«
Mais par erreur, mademoiselle, je venais voir un ancien camarade d'enfance. En passant devant la maison, j'ai vu là de la lumière à une fenêtre que je croyais la sienne. Alors j'ai monté et je suis venu en me trompant de porte frapper à la vôtre. Excusez-moi, je vais me mettre à la recherche du logis de mon ami. »
Le policier esquissa une sortie.
« Non, restez, dit Aliette, vous savez d'avance que vous ne trouverez pas. Vous veniez positivement dans cette chambre. »
« Non, je vous affirme que... »«
Mais vous avez oublié un détail dans votre explication. C'est que la maison n'a pas de portier. Comment seriez-vous entré si quelqu'un à l'avance ne vous avait confié une clé ?»
L'écureuil resta interdit.
« Donc, poursuivit Aliette, vous veniez ici même à 7 heures matinale au rendez-vous que vous avez donné le propriétaire de cette chambre. »
La belle blonde avait pris son plus gracieux sourire et son plus câlin timbre de voix.
« Allons, cher monsieur, avouez. »
Ce sourire et cette voix firent éprouver un frisson amoureux au sensible l'écureuil qui balbutia « Oh, oui, j'avoue. »
« Alors, venez vous asseoir près de moi et causons comme une bonne paire d'amis. Le voulez-vous » ajouta-t-elle en modulant sa voix et en plaçant sa petite main sur l'épaule de l'écureuil.
À ce contact, le policier tressaillit. Oh,
« Satan des tempéraments, se dit-il. Je suis perdu, je vais faiblir. Donc, mon cher monsieur l'écureuil, vous voyez que j'ai retenu votre nom. Nous disions que vous veniez ici chercher Miko. »
L'écureuil prit un air surpris. « Miko, quel Miko ?» Aliette posa sa main sur les lèvres du pauvre garçon, que cet attouchement secoua les pieds à la tête.
« Oh, ne mentons pas, entre amis, on doit être franc. Aussi vous allez vous convenir que vous veniez chercher des renseignements que Miko vous avait promis. »
L'émotion rendait l'écureuil muet. Il avoua un signe de tête.
« Satané tempérament !» pensait-il. « Or, poursuivit Aliette, avec ses renseignements, vous comptez perdre des gens qui sont de mes amis. »
Le policier voulut se lever pour rompre le charme, mais la petite main posa sur son bras et Aliette se rapprocha encore. Les grands yeux noirs, tout suppliants, dont elle le regardait, firent chaud à l'écureuil, en même temps qu'un parfum de chair fraîche et jeune, tout plein de luxurieuses effluves, lui monta au cerveau.
Vous êtes bon, mon ami, lui murmurait une douce voix. Laissez-vous fléchir, abandonnez cette poursuite.
« Oh, cela ne dépend plus de moi. D'autres se sont mis en campagne et vont les prendre. » Tout à coup, Aliette pensa au meurtre qui devait être commis dans quelques heures.
« Pendant 2 jours, arrêtez les recherches, » demanda-t-elle.
Il fit un geste négatif.
« Et pour ce retard, je sauverai la vie de 2 femmes. » qui vont être assassinés. »
À ces mots, l'agent secoua le charme et se redressa.
« Le nom, l'adresse de ces femmes ? » s'écria-t-il. À son tour, Aliette fit non.
L'écureuil avait aussi jugé la belle blonde. Il savait que les menaces, la violence, l'arrestation immédiate ou la prison ne la feraient pas parler. Faute de renseignements, les 2 femmes inconnues allaient être tuées sans qu'il pût venir à leur secours. Mais une inspiration lui arriva. De la poche de son gilet, il tira le médaillon aux cheveux blonds qu'il avait trouvé et le montra à Aliette.
« Le nom et l'adresse » répéta-t-il.
Aliette se leva pâle à la vue du bijou.
« Donnant, donnant » cria-t-il.
Elle se rapprocha du policier sans répondre.
Le dort de ces femmes, dit-il, ou je lance par la fenêtre ce don chéri de quelque amant. Et il ouvrit la fenêtre par laquelle entra le bruit de la rue qui s'était peuplée, car le grand jour était venu. Si le bijou était lancé, il était à jamais perdu. L'écureuil étendit le bras au dehors. « Parle, dit-il. » Aliette ne pouvait s'élancer pour arracher de temps le bijou, car le policier n'avait qu'à desserrer les doigts. Elle tomba à genoux, sanglotante et les mains jointes. « Grâce, lui dit-elle, c'est le seul souvenir qui me reste de mon pauvre enfant mort. » Dans un coin de ce cœur gangrené par le vice, il était resté une place pour le doux et pur sentiment de la maternité. L'écureuil s'arrêta, ému devant l'explosion de cette terreur douloureuse. Il revint à la femme agenouillée qui le regardait avec des yeux hagards. Il brisa le mince cordon de soie qui pendait au bijou, puis lui tendit le médaillon. « Tiens, lui dit-il, je te le rends sans condition. » Aliette le regarda avec une expression indicible de reconnaissance, puis elle saisit la main qui lui présentait le bijou et la baisa. Ce baiser brûla le policier. Toujours à genoux, le médaillon sur les lèvres, Aliette murmurait en pleurant. « Mon petit ange, pourquoi n'avoir pas vécu? Ta mère ne serait pas une misérable. » « Ma pauvre femme, soupira l'agent, sans penser à essuyer une larme qui lui mouillait la paupière. » Aliette s'était relevée. « Écoute, lui dit-elle, plutôt que de tenir le nom de ces femmes, je serais morte avant que de parler, car c'était en même temps te livrer les coupables. Et ton amant est du nombre ?»« Mon amant, fit-elle avec mépris, car elle comparait la conduite de Soufflard avec celle de l'écureuil. « Oui, l'homme que tu aimes. » Aliette regarda l'agent bien en face et elle répondit lentement. « Oh, que je croyais aimer hier !» Le cœur du jeune homme lui dansa dans la poitrine. Il roulait encore dans ses doigts le cordon qu'il avait arraché au médaillon, pauvre souvenir qu'il avait voulu conserver de cette femme. Aliette le vit. « Oui, garde-le, dit-elle, c'est la seule chose honnête que je pourrais t'offrir. » Elle marcha vers la porte, l'atteignit, et se retournant, elle adressa à l'agent un regard qui le fit tressaillir. Pour ne pas se perdre tout à fait, il ferma les yeux. Au bruit de la porte qui se refermait, l'écureuil rouvrit les yeux. Aliette n'était plus là. En rendant sans condition à Aliette son médaillon, l'écureuil avait bien deviné qu'il obtiendrait ainsi ce que n'aurait pu arracher d'elle les prières et les menaces. À midi précis, elle entrait dans le restaurant de la rue Saint-André-des-Arts, où le rendez-vous avait été assigné. À une table, placée dans un coin sombre, l'attendaient le sage, Mico et la volard, qui avait posé à côté d'elle un paquet de misérables hardes. En voyant arriver Aliette sans Soufflard, les trois convives firent un mouvement de surprise. « Et ton homme ?» demanda vivement le sage. « Il a été arrêté ce matin, » dit Aliette. « Pourquoi ?»« Ben, il avait oublié de payer son condé et ils sont venus le placer ce matin au chaud du lit. Bon, ils ne savent qu'inventer pour taquiner le pauvre monde, grinça le sage. Ainsi que nous l'avons dit, à cette époque, les forçats libérés pouvaient s'exenter d'aller à une résidence fixée et, moyennant une somme, obtenir la permission de rester à Paris. En argot, cette permission s'appelait condé. « Ben voilà le coup manqué !» dit vivement Mico, dont la figure, malgré tous ses efforts, reflétait le contentement. « D'autant plus, reprit Aliette, que Soufflard, en les entendant frapper, a eu la présence d'esprit de jeter dans les cabinets les fausses clés
que nous avait donné la volard.
« Oh, c'est du vrai guignon !» murmura le sage.
« Ben, il faut attendre la sortie de Soufflard, indiqua Miko, qui, dans son envie de se soustraire au crime, ne se doutait pas combien il venait en aide au projet d'Aliette.
« Ben, attendre sa sortie, dit le salaud, peut avoir le temps de crever de faim. »«
Ben, il faut juste le temps de trouver l'argent du condé, répliqua Aliette. Oh, je vais chez le receleur Grigobin. Il a peur des révélations. Oh, il paiera. C'est tout au plus une affaire de 3 jours.
Alors, on attendra, fit le sage en poussant un gros soupir de résignation.
Pour ne pas perdre les minutes, je cours chez Rigobin, dit Aliette en se levant. Elle avait hâte de quitter ses complices pour retourner près de Soufflard. Soit que ce dernier eût regret de sa rébellion, soit que la scène de fureur où sa maîtresse lui était apparue si impérieuse lui frappait de terreur, Aliette, en rentrant le matin, n'avait pas eu de peine à obtenir de lui qu'il restât dans la chambre pendant qu'elle irait au rendez-vous. Mais redoutant qu'en son absence Soufflard eût un regret de sa soumission, elle regagna vivement le logement de la rue de Noyers. Soufflard l'attendait en fumant sa pipe.
« Ils ont coupé dans le comptoir du Condé, lui dit-elle. « Allez, niais !» ricana Soufflard.
« Seulement, comme j'ai dit qu'il fallait 3 jours, ben nous resterons enfermés ici, » ajouta-t-elle.
Soufflard ne protesta pas contre cette résolution imposée. Il acceptait volontiers ces 3 jours de tête à tête avec la magnifique créature qu'il adorait. De son côté, Aliette était heureuse. Avoir sauvé la vie de 2 femmes en faisant manquer le complot était une bonne action qui commençait bien ses relations avec l'écureuil. De plus, en retenant Soufflard enfermé, elle allait le soustraire au coup de filet qui, au dire du policier, devait prendre toute la bande avant 48 heures. Sans avoir trahi personne, elle se croyait le droit de sauver l'homme qui, bien qu'elle ne l'aimât plus, n'en avait pas moins été son compagnon fidèle et dévoué.